Bonjour, je suis en compagnie de Giovanni Lista. Merci beaucoup de me recevoir. Nous parlons de Le Futurisme, texte et manifeste 1909-1944, qui est paru aux éditions Champ Vallon, épais livre 2200 pages. J'ai envie de vous demander, Giovanni Lista, comme question très ouverte, qui est Marinetti et que représente-t-il avant 1909? C'est-à-dire, que représente Marinetti avant qu'il écrive le manifeste du futurisme?
Donc, l'art italien moderne est né à partir de deux personnages très importants, disons complémentaires et semblables. C'est De Chirico d'un côté et Marinetti de l'autre. Tous les deux sont fils d'Italiens nés à l'étranger. Tous les deux ont été éduqués dans le mythe du Risorgimento, qui voulait dire, le Risorgimento étant le processus qui a mené à l'unité d'Italie, qui signifiait pour les Italiens de la moitié du 19e, signifiait que l'Italie enfin avait retrouvé son unité et qu'elle allait trouver une nouvelle grandeur, allait retrouver cette grandeur de la Renaissance, de l'époque baroque, voire la grandeur romaine. Donc cette mythologie, si vous voulez, a été inculquée à De Chirico quand il était tout petit et qui était entre la Turquie et la Grèce avec son père, et ça a été inculqué à Manetti, qui était en Alexandrie, en Égypte, avec ses parents. Tous les deux arrivent autour de 20 ans en Italie et tous les deux subissent un choc terrible de voir ce pays, après tout, qui ne correspondait pas à ce mythe de gloire dont l'avaient entretenu les parents. C'était un pays pauvre, plus ou moins avec 1000 problèmes, non réellement uni, politiquement uni. C'était uni sur le papier, mais pas, disons, la société italienne n'existait pas encore. Et donc, il y a deux réactions semblables et opposées. De Chirico fait un pas en arrière et fonde la métaphysique, l'art métaphysique, c'est-à-dire cet art de ville déserte, comment dirais-je, figé dans leur richesse monumentale, ce qui correspond à la réalité de l'Italie, Ferrare, Parme, etc., qui ont été au centre de l'histoire à certains moments, qui ont eu leur gloire dans le passé, qu'aujourd'hui sont désertes, et De Chirico pose tout au loin, derrière un mur, la locomotive et le train qui passent, c'est-à-dire la modernité technologique, l'état nouveau qui arrive, etc., et ce monde désuet hors de l'histoire qui est l'Italie. Manetti a la réaction exactement opposée. Il dit, je vais, moi, par mon énergie, par mon initiative, et surtout avec l'argent qu'il avait laissé son père, je vais créer une modernité italienne, je vais révolutionner l'art italien. Et je vais faire beaucoup plus que ça, je vais créer une culture et une identité moderne de l'Italie. Donc, jusqu'à ce moment-là, il était un poète symboliste, il fréquentait Paris assez assidûment, il avait été éduqué par les jésuites français du diocèse de Lyon, qui avait un grand collège pour des gens assez riches, donc à Alexandrie. Donc, sa formation est entièrement française, son esprit, son mental est français, c'est-à-dire la culture analytique, le culte de la littérature, etc., etc. Mais son tempérament fougueux, passionnel, enthousiaste, ardent, est italien, entièrement italien. Donc, il y a cette dichotomie, cette tension qu'il y a entre un cœur et un cerveau, qu'il y a en lui constamment, ça traverse tout le futurisme. Alors, disons, ça aussi, c'est très intéressant à remarquer. De Chirico avait été éduqué après, disons, rentré en Italie, et fréquentait Munich, l'Allemagne. Donc, une vision idéalisée de la Grèce, du monde latin, etc. Manetti fréquentait Paris. Donc, l'idée de la modernité, le mythe de la modernité, de la grande ville, etc. Baudelaire, on connaît l'impressionnisme, etc. Donc, chez Manetti, il y a cette solution en avant. Et celle de Chirico est en arrière. Et à partir de là se construit la modernité italienne, si j'ose dire.
Marinetti, avant d'avoir écrit le Manifeste du Futurisme en 1909, a créé déjà des choses avant. Et comment il a pu avoir en germe cette intuition par ses écrits?
Alors oui, donc disons, il y a quelque chose qui se fait tout au long de ces recueils de poèmes symbolistes. Donc, il adopte le vers libre, parce que c'est la modernité, donc lui, il attribue à Gustave Kahn l'invention du vers libre. Gustave Kahn était en plus son parrain, il s'est fait connaître à Paris par ses poèmes, Destruction, La ville charnelle, etc. Et on analyse qu'il y a une sorte d'extroversion du vers libre, alors que le vers libre chez les symbolistes, servait à chanter les mouvements secrets de l'âme, les nuances sentimentales, le monde secret de la mélancolie, etc. Chez lui, ça sert à chanter la ville, ça sert à chanter la tension, l'énergie, etc. Donc il y a cette extroversion du vers libre et en même temps une dynamisation du vers libre. Et là, on assiste à quelque chose d'assez singulier, c'est-à-dire que son imaginaire a été façonné probablement par la lecture de Victor Hugo, c'est-à-dire qu'il est constamment façonné par l'antithèse, par le combat. Donc s'il doit décrire un coucher de soleil, il vous dira que le soleil combat contre la nature du paysage, etc. C'est qu'il y a constamment une, il faut le dire, hein, il faut le dire, c'est sa vérité profonde, il y a constamment chez lui une vision de lutte, de combat, de guerre, qu'il applique partout. Évidemment, ça donnera ensuite des résultats plus loin.
1909, il écrit ce manifeste, il le rédige directement en français, il est paru également en italien, donc en italien et en français. Ce manifeste est court. Comment il se structure? Il a trois parties.
Alors, le manifeste a été rédigé directement en français et en fait, Manetti était uniquement francophone jusqu'à 1912. Il y a même une théorie que je ne partage pas, je ne suis pas convaincu de que ce soit vrai, mais on dit qu'il a inventé les mots en liberté quand il a commencé à écrire en italien. C'est-à-dire qu'il s'est libéré de la syntaxe afin de pouvoir écrire en italien. Bon, je ne crois pas que ce soit ça. Mais enfin, il était uniquement francophone, il écrivait directement en français. Il a composé ce manifeste, il y a plusieurs versions de ses compagnons de la revue Poesia, donc sa revue symboliste, la face symboliste. Ensuite, il était... Il a écrit, disons, tout d'abord il a fait un accident de voiture qui l'a en quelque sorte libéré d'un traumatisme de son enfance et il a rédigé le programme du manifeste qui est la partie centrale. Ensuite, dans l'hôtel qui est à côté de l'opéra ici à Paris, sur les papiers en tête de cet hôtel, lui il a rédigé le début et les conclusions. Alors, la structure du manifeste est une structure organique, parfaitement organique, c'est-à-dire qu'il y a le mouvement du départ avec une prose qui ressemble beaucoup au ton, à la tonalité du Zarathoustra nietzschéen. Et ensuite, il y a un programme qui est un programme de type politique, c'est des mots d'ordre d'un parti politique en quelque sorte. Et ensuite, une sorte de reflux final qui se termine par une réminiscence des pièces de Montrostant, une sorte d'auto-ironie, d'auto-caricature de lui-même. Donc l'ensemble donne une sorte de cheminement d'une vague, c'est-à-dire ça enfle, ça court et ça s'abat sur le rivage. Et c'est l'un des chefs-d'œuvre de la littérature d'avant-garde, disons, avec d'autres chefs-d'œuvre, c'est le manifeste de Breton, bien sûr, de Tzara, etc. Mais c'est un texte assez, comment dirais-je, qui ne laissait pas indifférent à l'époque. C'est-à-dire qu'il avait une énergie et une vision, comment dirais-je, si déterminée, si péremptoire, animée d'une telle certitude, alors que ce n'était pas du tout certain à l'époque, disons, face à la machine et tout le reste. Et alors, la chose extraordinaire dans ce manifeste, c'est cette phrase qu'il a, que l'automobile est plus belle que la victoire de Samothrace. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, dans les académies du monde entier, on mettait le plâtre, le calque de la victoire de Samothrace, et c'était le paradigme de la beauté. Il fallait s'exercer sur ces lignes-là. Et lui, il dit que l'automobile est plus belle que la victoire de Samothrace, et quand il parle d'automobile, il ne parle pas de la Ferrari d'aujourd'hui. Il parle de quelque chose de complètement de ligne droite, géométrique, que ça sentait l'huile, etc., le bruit désagréable du moteur, etc. Il parle de quelque chose qui était un horreur pour la sensibilité de l'homme de l'époque. Et pourtant, cette phrase extraordinaire décrète la fin de l'aura, dont parlera beaucoup plus tard Walter Benjamin, et établit une sorte de canon pour tout l'art d'avant-garde, c'est-à-dire qu'il faut renouer avec la vie. Il faut sortir des tours d'ivoire du symbolisme, il faut sortir de la mythologie de l'art pour l'art, de l'homme, du poète ou de l'artiste aristocrate qui est séparé de la vulgarité du monde réel. Au contraire, il faut plonger dans le monde réel et l'artiste doit participer au monde en devenir.
Oui, d'ailleurs, Giovanni Lista, vous écrivez dans l'introduction de votre ouvrage, « L'entrée des objets industriels et sériels dans le domaine de l'art équivaut conceptuellement à accepter la technique de la photographie du cinéma et des médias de masse auxquels Walter Benjamin impose la responsabilité de la perte de l'aura de l'œuvre d'art.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un mythe qui est le mythe de la création manuelle de l'artiste, inspiré. Alors, comme vous savez, Victor Hugo avait déjà choisi des pierres, des galets au bord de la mer, et il les avait isolées, mis sur des meubles, etc. Il voyait une œuvre d'art, mais cette œuvre d'art était façonnée de façon anonyme par la nature. Avec Manetti, on passe au stade suivant, c'est-à-dire qu'on célèbre comme œuvre d'art quelque chose qui est sériel, produit en série, et façonné de façon anonyme. Donc, il ne s'agit pas du tout de l'insondable, de l'inspiration, selon la mythologie romantique, de l'artiste qui aurait comment dirais-je, une capacité supérieure à l'humain. Et ce processus correspond parfaitement à l'image mécanique, l'image technologique, c'est-à-dire le cinéma et la photo, essentiellement. Donc, les deux arts modernes, le cinéma et la photo.
Ça, c'est ce qu'annonce le futurisme.
Oui.
C'est
Le
le futurisme est
futurisme.
lu comme une étape intellectuelle essentielle pour l'art du XXe siècle, en
Oui.
annonçant quasiment le ready-made de Duchamp,
Oui.
le pop art et les séries en art.
Oui, tout à fait. Ça a été son rôle. Ça, c'est, disons, comment dire, c'est le futurisme, mais en particulier le futurisme de Magnetti, qui avait cette sensibilité calée sur le contemporain. Il va, comment dirais-je, Magnetti va solliciter un groupe d'artistes et de poètes. Et malheureusement, comment dirais-je, les futuristes qui l'ont suivi ne disposaient pas d'une culture endogène comme telle que c'était à Paris, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu l'impressionnisme, ils n'avaient pas eu, comment dirais-je, les points de référence, surtout Cézanne, les points de repère qu'avait l'artiste français contemporain de la même époque, n'étaient pas connus en Italie. Donc, Magnetti lance des idées extraordinaires, mais l'interprétation de ces idées, l'application, si j'ose dire, de ces idées dans le domaine plastique et littéraire, parfois n'a pas la même intensité, n'a pas la même audace ou la même radicalité, parce que l'Italie n'était pas un pays aussi développé culturellement, je parle, que la culture française et Paris surtout.
Pour continuer sur ce sujet-là, vous écrivez dans votre introduction toujours, en extrayant de la réalité commune un objet utilitaire et en l'investissant soudain d'un statut esthétique inédit et déroutant, permettant de prendre conscience de la qualité emblématique d'un système idéologique en son entier.
Exact. C'est-à-dire qu'il y a un système idéologique en son entier, c'est-à-dire qu'il y a comment dirais-je, une nouvelle culture qui naît, une nouvelle vision du monde et par conséquence une nouvelle esthétique totalement différente de l'esthétique précédente. Et Magnetti a cette intuition en premier. Il aurait eu, parmi les jeunes artistes qui l'ont suivi, un jeune Duchamp, il aurait eu un autre développement, le futurisme. Voilà, c'est pour ça que ça reste un grand visionnaire, Magnetti, mais malheureusement n'a pas pu appliquer toutes ses idées.
Et alors, vous parliez de l'Italie, de la réception du futurisme en Italie, mais bien entendu, le futurisme a impacté aussi la culture européenne, notamment en France. Marinetti, vous le décrivez comme un homme de grande culture et à l'esprit cosmopolite. Le cosmopolitisme de Marinetti lui a été d'une grande aide pour valoriser, pour faire accepter les idées du futurisme ailleurs qu'en Italie.
Oui, alors là, vous avez l'une des contradictions de Magnetti, parce que c'est un homme terriblement, comment dirais-je, contradictoire. Il pensait une chose et il vivait aussi, il était tout à fait capable, ou il était bloqué sur le contraire de la même chose. Alors, d'un côté, lui, il est un grand cosmopolite, parce qu'à Alexandrie, en Égypte, effectivement, il a été élevé dans un milieu cosmopolite. Il y avait des Français, il y avait des Grecs, il y avait des Anglais, etc., etc. Donc, il fréquentait tout le temps Paris, les grands salons parisiens, il connaissait tout le monde. Donc, il avait un esprit cosmopolite. Et cet esprit cosmopolite lui a dicté de faire des grandes conférences à Berlin, à Londres, à Moscou, à Paris, à Bruxelles, partout, en Espagne, etc. Partout pour propager le verbe futuriste, cette vision futuriste du monde à venir. Mais en même temps, il voulait la modernité italienne, il voulait l'unité d'Italie, est un fils du Risorgimento italien. Donc il y a ce côté nationaliste, si je veux dire, ce côté patriotique à l'extrême, qui est en contradiction avec son cosmopolitisme. Alors à la fois, il disait que l'Italie devait être le modèle pour les autres, Donc il insistait sur une sorte qu'on analyse aujourd'hui comme une sorte d'impérialisme, tentative d'hégémonie. Pas du tout. C'est un fils du Risorgimento. Donc il faut savoir que le futurisme naît, disons, l'unité d'Italie c'est en 61, le futurisme naît en 1909, c'est-à-dire moins d'un demi-siècle de l'unité d'Italie. Dans toutes les maisons italiennes, le portrait de Garibaldi, le portrait de Cavour, des pères de Mazzini, les pères du Risorgimento, étaient affichés dans toutes les. Donc c'était impossible de ne pas être patriote en Italie à ce moment-là. Et évidemment, cet aspect-là, c'est qu'il y a cette double conjonction comment dirais-je, assez problématique. D'un côté, une sorte de patriotisme viscéral et donc de nationalisme. De l'autre côté, le fait que l'art doit s'engager dans l'histoire, l'art doit être, disons, l'artiste n'a plus le droit d'être enfermé dans son atelier, mais il doit descendre dans la rue et participer au monde réel. Cet double mouvement, malheureusement, consignera le futurisme au fascisme. C'est-à-dire que le fait de participer à l'histoire, lorsque l'histoire tournera vers la dictature à cause de problèmes bien plus vaste, on en parlera si vous voulez, le futurisme se trouvera malheureusement piégé dans ce sens-là.
Mais avant d'aborder cette étape-là et notamment le début des années 20, Marinetti, dès 1909, veut promouvoir le futurisme. Il considère que le futurisme est un internationalisme. Vous écrivez, par l'envoi massif de manifestes futuristes dans le monde entier, par les innombrables conférences qu'il tient dans les villes européennes, Marinetti obéit également à sa vision d'une fraternité internationale des artistes.
Oui, ça c'était en quelque sorte aussi la vision de Mazzini, l'apôtre du Risorgimento. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, comment dirais-je, que chaque peuple puisse poursuivre sa réalisation, ses idéaux. Et donc, Manetti dit, chaque peuple doit poursuivre sa modernité. Chaque peuple, il précise, a son propre passéisme à abattre, ses propres traditions à abolir. Et donc, en quelque sorte, il y a, comment dire, ce double mouvement dont je vous parlais, c'est-à-dire d'un côté son nationalisme et de l'autre cet internationalisme de fait. Quand il a été en Espagne, quand il a été à Londres, par exemple, il y a des textes dans lesquels il explique aux Anglais ce qu'ils devraient faire pour être modernes, mais il ne leur dit pas de copier le futurisme italien.
Parce que Marinetti, enfin, est infatigable. Pendant 35 ans, il va dépenser à la fois son énergie, mais aussi sa fortune. C'est-à-dire qu'il croit au futurisme. Il a cette idée originelle, et ensuite il ne va plus la quitter. Bien entendu, elle va connaître un certain nombre de modifications. Mais il y croit tellement que son énergie, sa fortune, est uniquement au profit du futur. Et c'est-à-dire qu'à aucun moment, il s'est dit, j'ai créé un manifeste juste comme ça, pour rien, on va voir si ça fait son effet ou pas.
Ah non,
Non, il
non,
va tout faire, tout mettre en œuvre pour être suivi.
non. Non, il en a fait la raison d'être de sa vie. Alors, les méchants disent aujourd'hui, les gens qui sont très critiques, ils disent que quand il s'est rendu compte qu'il était un mauvais poète, il a voulu miser tout là-dessus. Non, pas du tout, parce que par exemple, il était un excellent dramaturge. Ses tragédies, ses pièces de théâtre symboliste, les poupées électriques et le roi Bouman sont excellentes. Donc ce n'est pas du tout. Il ne faut pas suivre cette idée-là. En réalité, vraiment, c'est son patriotisme qui lui fait agir comme ça, et en même temps, il est convaincu d'être investi d'une sorte de mission. Alors, cette idée de mission, c'est les jésuites qui l'ont transmise. Les jésuites, c'est l'armée de l'Église, comme on dit, non? C'est-à-dire la propaganda fide, la propagation de la foi. Et donc, lui, il s'empare. Si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. C'est ce mélange extraordinaire qu'il a un côté, disons, missionnaire, il y a un côté nationaliste exacerbé, il y a un côté cosmopolite. Il était, par exemple, autre chose qui est très douloureuse encore aujourd'hui de le lire, en Russie, on l'a attaqué en disant qu'il était un homme vulgaire, etc. Alors, ça, je tiens beaucoup à le signaler, étant italien moi-même. À l'époque, l'italien était l'émigré. Il était une sorte de sous-espèce humaine, traité très mal partout. Alors, c'est admirable le courage qu'il avait de se présenter sur scène à Paris, à Londres, à Berlin, sachant que les Italiens étaient considérés très mal. et de prendre la parole et de critiquer les Allemands, de critiquer les Français, de critiquer les Anglais. Je ne sais pas si vous voyez la force de... Et alors, des fois, il a été attaqué de manière très vulgaire. Par exemple, des journalistes anglais écrivaient que son père travaillait dans un bordel et qu'il avait fait la fortune en exploitant des prostituées et que Manetti avait des bagues, des bracelets, tout en or, etc., qui était quelqu'un de très vulgaire, etc. Ça ne correspond pas du tout à la vérité. Son père travaillait dans une banque, il était un haut fonctionnaire d'une banque, mais vraiment pas du tout. Et il était vraiment très riche. Quand on voit les photos de sa maison, il jouait du piano, etc. Il avait une éducation extraordinaire. Vous savez, les jésuites, il avait été éduqué à composer des poèmes, des tragédies, à connaître les langues, l'équitation, l'escrime, etc. Vraiment, c'était vraiment un grand cosmopolite, un grand bourgeois, presque aristocratique de sensibilité. Mais on le décrivait comme un Italien, quoi. C'est-à-dire la caricature de l'Italien. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lui, ça ne le gênait pas. Il avait le courage d'aller au-devant de tout ça et de prendre la parole.
D'autant plus que pour lui, le futurisme, il a employé tout de suite le terme avec de mouvement. Il appelait le mouvement futuriste. C'est-à-dire qu'il y avait cette volonté non seulement de propager les idées de son manifeste, mais également de faire mouvement. Y compris dans une acception politique.
Politique du terme, tout à fait.
Vous décrivez en tant que qualificatif d'un groupe qui veut agir dans la sphère sociale et sur le plan de l'histoire.
Voilà, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. Avant, juste avant, il y avait ce qu'on appelle un cénacle, ce qu'on appelle un groupe, et ce qu'on appelle aussi la koiné symboliste, c'est-à-dire que les poètes symbolistes écrivaient entre eux, etc. Ils avaient conscience de participer d'un même choix, si vous voulez. Manetti articule un modèle nouveau qui est le mouvement qui, en s'inspirant à la fois de la Giovane Italia de Mazzini, bon, vous ne connaissez pas l'histoire italienne, j'imagine, mais Mazzini, à l'époque du Risorgimento, il a fondé une association nationaliste, dans le sens positif du terme, socialiste et tout, qu'il appelait la Giovane Italia, et il voulait que dans chaque ville d'Italie, il y ait un groupe de jeunes qui puisse mouvementer l'opinion publique, c'est-à-dire inculquer aux Italiens les idéaux de la patrie, etc. Or, Manetti s'appuie sur cette vision-là et crée un groupe de futuristes partout en Italie, dans toutes les villes, etc. Donc, il y a des groupes locaux, des groupes régionaux, etc. etc. Mais l'autre modèle qu'il suit en même temps, c'est le modèle anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire le groupe des ouvriers qui se trouvent et qui, d'une manière interdisciplinaire, s'alimentent dans leur conviction révolutionnaire. Et dans ce sens-là, il y a une synergie interne au mouvement futuriste qu'il crée, dans lequel, quand on se retrouvait chez lui, il y avait à la fois le poète, l'artiste plasticien, le musicien, etc. Donc, l'intuition d'un des futuristes se répercutait aussitôt sur les idées de l'autre. Donc, on avançait en synergie ensemble. Et ça faisait ce qu'on appelle un mouvement. Par ailleurs, le mouvement se vérifie aussi dans les fameuses soirées futuristes, c'est-à-dire Manetti louait des théâtres, parce que c'est lui qui payait à chaque fois. Donc il louait des théâtres, il bombardait d'affiches, de tracts de la ville en disant « Jeudi prochain, les futuristes vont, etc. etc. » Les gens arrivaient en masse et commençaient ces fameuses soirées futuristes avec insultes au public, etc. etc. Évidemment, les journaux en parlaient, et donc c'était ça aussi une sorte de moyens de propagande extraordinaire.
Oui, parce qu'il y avait réellement une propagande de sa part. Il y a des choses qui m'ont assez surprise dans la manière de promouvoir le futurisme. Par exemple, à la fin de plusieurs textes futuristes, on peut trouver de petits encadrés. Je lis un petit encadré. Au hasard. Si notre distingué collègue souhaite recevoir Il Codici di Perella, roman du poète futuriste Aldo Palicetti, ainsi que Distrusione, recueil de poèmes futuristes du poète Marinetti, et le compte-rendu de son procès de son acquittement pour Mafarca le futuriste, notre cher collègue n'aura qu'à envoyer à la rédaction de notre revue, Via Senato numéro 2 à Milan, un exemplaire de son journal contenant ces lignes intégralement publiées. C'est-à-dire qu'en gros, si le journal publie un des manifestes futuristes, Eh bien,
Il faisait cadeau de deux volumes.
voilà,
Ah,
pour la peine,
bon. Non,
il
alors
recevait des livres.
ça c'est assez, comment dire, assez comique aujourd'hui parce que les antiquaires disent, mais alors quel tirage ont eu ces livres? Parce qu'on se pose le problème, ce n'est pas le petit tirage de la grande revue dadaïste, je ne sais pas quoi. Lui, il imprimait et il donnait. Donc, il y a quelque chose qui est l'esprit marketing d'aujourd'hui. Il propagande le futurisme comme un produit de marché, si vous voulez. Et en même temps, quand il faisait ses soirées futuristes avec la violence et tout, il obligeait les gens à prendre position ou pour ou contre. On ne pouvait pas être indifférent. Quand vous aviez assisté à une soirée pareille et qu'il y avait ensuite des articles dans toute la presse qui insultaient les futuristes, où ils disaient qu'ils sont géniaux, on était obligé de prendre position. Vous comprenez, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Parce que ce que prônent Marinetti les futuristes, c'est que l'art doit rejoindre la vie réelle. Donc forcément, il y
Exactement.
a, ça fait l'objet inévitablement de désaccords et de disputes.
Et des disputes. En même temps, il propagandait l'art et il voulait que les artistes soient comme aujourd'hui se passent les choses qui se passent autour d'une équipe de football. Voilà, les futuristes étaient comme le Paris Saint-Germain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la foule qui suit, les journaux qui en parlent et l'opinion courante qui en débat. Vous comprenez? Donc c'est le fait vraiment que l'art doit devenir une chose qui concerne tout le monde. Sortir donc des tours d'ivoire du symbolisme, si vous vous rappelez Mallarmé, etc., le sacerdoce de l'art, pas du tout.
Et alors, justement, cette idée-là produit chez les futuristes une abondance de manifestes. Et c'est ce qui, personnellement, m'a surpris donc dans cet épais livre, Le futurisme, texte et manifeste 1909-1944, où vous regroupez tous les textes et tous les manifestes futuristes, c'est qu'il y a un nombre de manifestes futuristes, hormis celui de 1909, fondateur de Marinetti, un nombre de manifestes, mais stupéfiant, incroyable. Ils ont une propension à écrire des manifestes qui est propre au futurisme.
Voilà, qui correspond à cette vision du monde qu'est le futur. C'est-à-dire, je suis pour le futur. Donc, c'est la tension imaginatrice, c'est le désir le projet, le désir, la vision de l'avenir. Donc, en quelque sorte, ils ont inventé l'art conceptuel. C'est-à-dire, au lieu de réaliser, parce qu'à partir du moment où vous réalisez l'œuvre, elle tombe dans l'histoire, elle a une date, elle tombe dans le musée. C'est-à-dire, elle est quelque chose de figé, de mort. Donc, ce qui est réellement vivant, c'est le désir, la projection vers l'avant. Et c'est ça qui exalte le futurisme avec les manifestes. Et donc, il y a des choses extraordinaires comme l'abonnement au manifeste futuriste. On paye un abonnement et on reçoit par la poste chaque mois un manifeste. Mais sachant qu'un mois tout juste, le manifeste sera périmé parce qu'il y aura le prochain. Et donc, c'est vraiment une attitude extraordinaire. Je pense que c'est déjà, en quelque sorte, l'art conceptuel, quoi. C'est-à-dire que le projet vaut autant que l'œuvre, si ce n'est pas beaucoup plus que l'œuvre.
Parce que le futur est toujours
Est
un
toujours plus
A
fort par
et un
rapport au.
avenir, voilà.
Voilà, est toujours plus fort parce qu'il contient tous les possibles par rapport à ce qui a été réalisé et que donc est limité.
Et donc ça exprime le geste vital exigeant un perpétuel
Alors,
recommencement,
un
vous
perpétuel
écrivez.
recommencement, voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose, c'est une véritable idéologie ou vision du monde, attitude de l'esprit, quoi. C'est beaucoup plus qu'une simple discipline artistique.
Donc vous pouvez dire que l'écriture d'autant de manifestes est consubstantiel au futurisme.
Consubstantiel au futurisme,
C'est-à-dire que c'est une
qui, de ce
obligation.
point de vue, apparaît comme une poétique des poétiques. C'est-à-dire non pas une poétique de quelque chose de terminé, de figé, une utopie à la façon de la ville idéale. Pas du tout. C'est cette marche en avant continuelle, cette tension vers l'avenir. C'est quand même une vision à la fois nietzschéenne, bergsonienne, tout ce que vous voulez. Ça se situe entre le subjectivisme de Bergson et une sorte d'élan utopique sans but. Mais c'est quand même une philosophie, une véritable philosophie.
Et Marinetti a réussi à agglomérer autour de lui quasiment toutes les disciplines artistiques, puisque ça va du théâtre à la poésie, au roman, à la musique, bien entendu, beaucoup la musique, aux arts aussi.
L'architecture,
Donc
la
tous
mode.
les types d'art, on va dire, tous les types de disciplines artistiques humaines, il a réussi à agglomérer toutes ces disciplines, et donc les créateurs, des créateurs dans chaque discipline, et à leur faire écrire chacun des manifestes. C'est-à-dire qu'ils se sont tous mis dans leur discipline à écrire, bah, par exemple, un manifeste futuriste sur la musique, par exemple, avec Luigi
Sur la
Russolo.
musique. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'idéologie de la machine, donc on dit souvent que le futurisme, c'est l'exaltation de la civilisation technologique de la machine. Ce n'est pas ça exactement. Quand on suit exactement tous les manifestes, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'imiter la machine ou de célébrer la machine. C'est de prendre conscience qu'à partir du moment où il y a la machine qui n'a pas d'antécédent dans l'histoire de l'humanité, tout est à repenser à zéro. Donc Russolo, vous citez Russolo, il se dit, mais pour quelle raison il faut suivre les notes, la répartition des notes? Pour quelle raison il ne faut pas réinventer la musique? Et donc à ce moment-là, le fait qu'il y ait eu la machine devient une coupure avec le passé, avec la tradition, et la nécessité de réinventer le monde. Et réinventer le monde, ça veut dire écrire des manifestes, des manifestes, des manifestes dans tous les domaines, que ce soit les arts nobles, l'architecture, la peinture, la musique, etc., que ce soit les arts infimes, comme c'est le cas de la mode, il y a des manifestes sur la cravate, des manifestes à peu près sur tout.
Pour continuer sur Luigi Russolo, vous écrivez en fondant l'art des bruits, Luigi Russolo veut par exemple que l'homme soit capable de réécouter même le grondement du tonnerre, les sifflements du vent, la rumeur d'une cascade, le froissement d'une feuille. L'art doit se repenser, écrivez-vous, questionner son statut et son langage afin de se relier à nouveau à la vie.
Exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut repenser l'art en fonction du monde moderne. Et dans le cas de Russolo, la chose est vraiment exemplaire parce qu'en plus, il dit, si on lit le manifeste avec attention, il ne parle pas d'imiter les machines. Il parle de tous les bruits de la nature. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, comment dirais-je, prendre conscience du décalage qu'il y a entre les salles de concert qui jouent Mozart, Beethoven et tout ce que vous voulez, respectable musique, et d'écouter ce qui se passe dans la rue, dans la ville moderne, qui est la grande source d'inspiration des futuristes, c'est-à-dire ce cosmos urbain, il a multiples sensations de tous les types possibles, et l'art, il faut la repenser à partir de ça.
Mais quelqu'un comme Luigi Russolo, comment se trouve-t-il embarqué avec Marinetti à vouloir lui aussi écrire des manifestes? Parce qu'il en a écrit plusieurs des manifestes,
Il en a
Luigi
écrit plusieurs.
Russolo.
Voilà, Russolo, il a commencé comme peintre. Il était un peintre, disons, formé autodidacte. Et il a commencé comme peintre. Il a exposé les peintures avec le groupe futuriste et tout. Et puis, Marinetti se rend compte que Pratel, le premier musicien qui l'avait chargé d'écrire, de composer un opéra et de former une musique futuriste, il se rend compte que Pratel n'arrivait pas à se séparer de Wagner et d'une certaine sensibilité d'Annunzienne, Anna D'Annunzio, ce fameux écrivain symboliste italien. Et donc, Russolo dit, moi je suis capable. Et il y a son audace correspond au fait qu'il n'était pas engagé dans la musique, il était en dehors du milieu musical. Et donc, il pense le manifeste L'art des bruits, et ensuite il développe pendant toute sa vie cette hypothèse en construisant le rumor harmonium, etc. Le cas de Russolo est très intéressant parce qu'il n'obéissait pas du tout à l'idéologie de Marinetti. Il était démocrate, antifasciste, et il a préféré s'exiler à Paris plutôt que de se compromettre avec le fascisme. Et quand il rentre en Italie vieux et malade, il va vivre dans un village et les futuristes lui demandent de revenir dans le mouvement. Il dit non, il refuse. Donc son attitude est exemplaire, son itinéraire est exemplaire. Mais quand Manetti meurt et qu'il a la notice de la mort, c'est ça qui est extraordinaire, il tient à aller devant le cercueil, à faire la laudatio funèbre, la célébration du mort. Et là, il y a un texte que j'ai tenu à mettre à la fin de mon livre, dans lequel il parle de la grandeur de Manetti, sans mentionner le fascisme, sans parler des idées politiques de Manetti. Il ne dit pas mot, mais il dit que c'est celui qui a financé, qui a soutenu les artistes, qu'il était incomparable dans ce rôle d'animateur de la flamme du futurisme. Et donc, en cela, on comprend que Manetti, c'est la dernière grande figure du Risorgimento, c'est une sorte de Garibaldi de l'art, vous voyez ce que je veux dire, une sorte d'idéaliste comme ça qui a voulu donner il a mis sa vie et sa fortune en jeu pour donner une modernité à l'Italie, quoi.
En terminer avec cette histoire de manifeste, vous écrivez que Marinetti affirme avoir un don particulier, l'art de faire des
L'art de
manifestes.
faire des manifestes, ça, il le dit dans plusieurs lettres. Dans une lettre à un poète belge, Henri Maassen, Et il le dit dans une lettre à Pratella et dans une lettre à Severini. Alors, on constate, par exemple, quand on regarde les manuscrits, que des fois, il change le titre même du manifeste. Il utilise toujours le mot contre, toujours ce côté, comment dirais-je, ce côté le combat, le militantisme. Et donc, dans ce sens, il avait vraiment la psychologie de la politique, quoi, du syndicaliste, quoi, si j'ose dire. Et puis, en même temps, il réduisait les manifestes à des phrases péremptoires. C'est jamais discursif, c'est jamais analytique. C'est toujours l'affirmer avec force des convictions. Et l'autre chose qu'il dit dans une de ses lettres, c'est que manifeste veut dire qu'on peut le lire sans les lunettes. Et effectivement, on constate que les manifestes sont écrits avec des caractères très grands, très gros. Donc effectivement, c'est l'impact qu'on avait, c'était des feuilles repliées, là, avec des caractères très gros, des gras pour souligner les phrases les plus percutantes. Et qui se terminait toujours avec des formules qui, lui, qualifiait d'incendiaires. C'est-à-dire, ça transmettait de l'enthousiasme, de l'envie, quoi, de l'envie. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut pour un artiste. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour un artiste, quoi. Disons, à l'époque, c'était très nouveau.
Et donc, avec ce lien avec le futur, avec cette glorification des conquêtes de la science, et... Vous expliquez bien par quel processus cela fonctionne. Et j'étais étonné de voir qu'un des concepts clés de Marinetti, c'est l'intuition. Il le déduit d'un philosophe, il le déduit de Bergson. Et vous avez cette belle phrase de Giovanni Lista. En conjuguant l'instance nietzschéenne d'une nouvelle articulation structurelle du langage et la philosophie de l'intuition bergsonienne, Marinetti élabore l'utopie idéologico-esthétique philosophique d'une littérature et d'un art capable de concrétiser un langage nouveau pour une réalité nouvelle. Cette utilisation de l'intuition bergsonienne par Marinetti.
Oui, l'intuition comme capacité de se mettre à l'intérieur de l'objet, à l'intérieur de la matière, et de comprendre la logique de la matière. Donc, le problème qu'il dit, lui, c'est qu'il faut abolir la vieille psychologie de l'être humain, de l'homme, qu'on a usé jusqu'à la corde dans le roman psychologique, etc., etc., et qu'il faut plutôt s'identifier à la matière en action. Et l'art doit correspondre, grosso modo, à ce que c'était l'élan vital pour Bergson, c'est-à-dire être constamment dans un état insurrectionnel permanent et chanter, rythmer l'élan vital.
Et cet élan vital va pousser Marinetti, avant de parler du fascisme, à avoir un principe anarchiste, celui de la tabula rasa, qui aboutit parfois chez lui à des appels d'une extrême violence, allant jusqu'à l'exaltation de la guerre comme événement régénérateur des peuples, écrivez-vous.
Oui, ça, malheureusement, chez Marinetti, il y a d'abord, comme je vous disais tout à l'heure, dans ses poèmes symbolistes, il y a déjà cette lecture du monde par antithèse, à la manière de Victor Hugo, et on sent, comment dirais-je, cette idéologie des oppositions primaires, en quelque sorte. Ensuite, apparaît dans le manifeste Fondation du Futurisme cette phrase terrible, la guerre hygiène du monde. Alors, moi, je me suis interrogé longuement sur cette phrase. Alors, je pense tout d'abord que lui, il a eu l'éducation par les jésuites, la formation par les jésuites. Ce qui lui est resté, c'est cette vision, parce qu'il parle d'hygiène, hein, mais pas d'hygiène. Il lui est resté cette vision de, comment dirais-je, le déluge universel, le Sodome et Gomorre, c'est-à-dire la punition de Dieu. Quelque part, quand l'humanité se trouve dans une sorte d'impasse, d'errance, il y a cet événement purificateur de remise à zéro de la situation. Donc il y a déjà cette idée, c'est une transposition laïque, si j'ose dire, de cette idée biblique de la catastrophe purificatrice. C'est ça la guerre du monde. Par ailleurs, il a dû lire certainement, j'en suis convaincu, Joseph de Maistre, vous connaissez cet auteur savoyard qui était très suivi par les jésuites, moi je pense qu'il a dû lire. Or, la fameuse soirée de Saint-Pétersbourg, il dit Joseph de Maistre, cette inéluctabilité de la guerre, et Marinetti, je pense qu'il était convaincu que l'homme est une bête carnassière, que l'homme, disons, l'animalité humaine est ce qu'elle est, et que ce n'est pas la peine de prêcher l'évangile, de fantasmer du paradis soviétique ou je ne sais pas quoi d'autre, c'est-à-dire d'une vision finale de la marche de l'humanité où l'homme serait neutralisé dans son animalité. Donc, puisqu'il existe cette animalité, puisqu'il existe cet instinct de guerre, de lutte, de suprématie dans l'homme, lui, il pensait plutôt qu'il fallait le transférer dans le domaine artistique. Donc, il parle des artistes au pouvoir et du fait d'organiser des joutes artistiques qui permettraient à l'être humain de transposer dans le domaine artistique cette pulsion agressive qui est à la base de son animalité. Et c'est ça qui le met en territoire proche du fascisme, près du fascisme. Mais là aussi, il faut quand même distinguer bien ce qui s'est passé. Quand le fascisme était juste un projet, avant la marche sur Rome, juste un projet, Manetti a dit non. Il a d'abord justifié une sorte d'alliance avec Mussolini pour participer aux élections. Et ensuite, il a refusé Mussolini, il a refusé le programme de Mussolini 2-3 fois. Donc, il est certain qu'il n'en veut pas du fascisme. Ce qui se passe après, c'est le régime fasciste, ce qui est tout à fait autre chose. Et il se fait piéger parce que Mussolini lui laisse croire, ou c'est Manetti qui le croit naïvement, que sur la base de leur amitié, sur la base du fait que Manetti avait tellement fait pour l'art italien, etc., Manetti est convaincu qu'on lui accordera un rôle hégémonique, qu'on lui accordera la possibilité d'animer les arts sous le nouveau régime. Et la chose ne se fera pas, quoi, au contraire.
Avant, quelques années avant, j'aimerais qu'on revienne à l'année 1920, qui va être un tournant pour le futurisme politique. Il y a déjà l'échec de l'expérience de Fiume, donc de Gabriel D'Annunzio, ça c'était en décembre 1920, qui signe l'échec de tout espoir d'affirmation des idées politiques visionnaires des futuristes. Et puis, il y a le fait que les futuristes ne se reconnaissent plus dans le fascisme de Mussolini, et qu'ils sont en rupture avec le groupe des Arditi, qui prenait une révolution politique. Ça, il y a déjà une cassure en 1920. C'est-à-dire que le futurisme politique a pris un tournant à ce moment-là.
Alors, la chose est très très complexe, et surtout il faut connaître l'histoire d'Italie pour comprendre bien ce qui s'est passé. Le président Wilson n'accorde pas, donc revenons un peu en arrière. L'Italie, quand commence la guerre, était du côté de l'Autriche. Demande à l'Autriche, si vous me donnez l'Istrie, c'est-à-dire la petite zone près Trieste, etc., moi j'entre en guerre avec vous. L'Autriche ne répond absolument pas. La France propose, par voie diplomatique secrète, la France-Angleterre propose à l'Italie, si vous venez dans notre camp, on vous donnera ça. Le gouvernement italien dit oui, on signe un accord qui reste secret, et l'Italie entre en guerre. Or, la guerre se termine, relisez bien vos livres d'histoire, se termine avec la victoire de Vittorio Veneto, c'est la victoire de l'armée italienne. C'est la victoire de l'armée italienne qui permet de signer la paix et qui marque la défaite de l'Empire austro-hongrois. Or, que se passe-t-il? Wilson dit, lors des colloques là pour la paix, il dit, puisque c'est un accord secret et que je ne suis pas d'accord que la diplomatie fonctionne avec les accords secrets, je ne le reconnais pas et l'Italie n'aura pas cette partie-là. La France et l'Angleterre appuient cette thèse du président américain et l'Italie se voit privée de la promesse qu'on lui avait faite et qu'on avait signé les papiers. Donc, c'est une grande déception pour les Italiens et pour les futuristes en particulier. Et D'Annunzio s'empare de cette déception, il fait un célèbre article dans le Corriere della Sera, le journal de la bourgeoisie italienne, l'équivalent du Monde à Paris, il parle de victoire mutilée. Et cette mythologie de la victoire mutilée qu'il va animer dans toute l'Italie, etc., nous a donné le fascisme après. Il faut bien savoir ce qui s'est passé. Cette humiliation de l'Italie, ça a fait une catastrophe ensuite. Alors, pour les futuristes, ils pensaient que le fait d'avoir gagné la guerre et d'avoir fait le sacrifice le plus important pendant la guerre, ça donnait cette sorte d'illusion de grandeur de l'Italie. C'était la mythologie sur laquelle l'humanité avait construit le futurisme et sur laquelle avait animé un futurisme politique, c'est-à-dire le fait qu'on allait redevenir grand. Et à partir de là, il y a une période assez confuse. Donc, vous connaissez l'histoire de Fiume. Donc, Fiume et la France ne voulaient pas que ce soit donné en Italie. D'Annunzio prend la voiture, se présente à la frontière et il demande au chauffeur de casser les barrières d'entrée vers Fiume. On essaie de l'arrêter. Alors, D'Annunzio dit tirer, si vous voulez. Personne n'osait tirer sur D'Annunzio. Donc, il occupe Fiume. À partir de là, il y a 20 000 personnes qui converse sur Fiume. Il y a un télégramme des dadaïstes de Zurich qui le félicite, il y a Ricciotto Canudo qui y va, il y a etc. Donc Fiume, c'était quoi? C'était l'occupation d'une ville, une sorte de régence, l'appel d'Annunzio, la tentative de créer une constitution nouvelle avec une idée fondamentale de Manetti, la musique qui régnera sur le monde, etc. Et il y avait là les Arditi. Alors c'est quoi les Arditi? Il faut savoir que les Arditi étaient ceux qui ont permis la victoire de l'Italie. C'était les audaciers, ça veut dire le mot Arditi, hein, ça veut dire audacier. C'est-à-dire les gens qui étaient avec le poignard et le courage, ils osaient aller de l'avant, etc. Comment les appeler, je ne sais pas à quoi ça correspond dans l'armée française, mais il y en a dans toutes les armées du monde. Or, les Arditi avaient un projet qui correspondait grosso modo, hein, c'est des autres parallèles de l'idée futuriste, c'est-à-dire qu'il y a une classe, une élite de la nation italienne. Cette élite, c'est ces gens de courage, activistes, prêts à tout. Pourquoi? Pour la grandeur de l'Italie, pour un monde meilleur. Donc, ces Arditi portent leur adhésion à l'entreprise d'Annunzio, et d'Annunzio crée une sorte de république de fait. Il faut penser à aux communautés des hippies aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Et cette expérience se termine tragiquement parce que le roi fait intervenir la flotte militaire, etc. Donc D'Annunzio et les Arditi sont évacués de Fiume. À ce moment-là, Mainetti cherche des alliances avec Mussolini, avec les anarchistes, etc. Donc il essaie de trouver quelqu'un qui appuie son programme plus ou moins anarchiste du futurisme. Il ne le trouve pas et à un moment donné, c'est Gramsci et les communistes qui veulent lui offrir cette occasion, mais il n'en veut pas. Il n'en veut pas parce que l'idée principale de Mainetti, du point de vue politique, c'est l'individualisme. C'est l'individualisme, c'est-à-dire qu'il n'acceptait pas à la fois la racine socialiste, le collectivisme du fascisme et du socialisme, tous les collectivismes en quelque sorte. Il estimait que l'individualisme est une conquête fondamentale de la modernité et c'est son point, son point d'achoppement, quoi. Il n'avait pas de quelque chose qui puisse ne pas être, qui puisse sacrifier l'individualisme. Et alors, il écrit à ce moment-là une pièce de théâtre qui s'appelle Le tambour de feu, et qui est une pièce de théâtre dans laquelle, par l'allégorie, comme il l'avait fait au début du mouvement, il décrète la fin du futurisme, du moins la fin du futurisme comme idéologie globale. Il continuera à défendre le futurisme comme mouvement artistique et culturel sous le fascisme.
Qu'est-ce qui se passe justement en 1922, au moment où il publie Le tambour de feu?
Alors, le tambour de feu, vous savez que dans le Gai Savoir, Nietzsche dit que la mort de Dieu équivaut à désenchaîner la terre du soleil. C'est cette phrase qui est très intéressante. C'est quoi le soleil? Le soleil, c'est le mythe qui est à la base de toutes les religions de l'humanité. Toutes les théogonies naissent de cette image du soleil. Et le soleil, c'est ce qui rythme la vie de l'homme, la vie de la nature, qui rythme l'être, quoi, l'être du tout, quoi, le cosmos. Donc, Mainetti, quand il avait fondé le futurisme, avait fait un roman, Mafarka le futuriste, une allégorie flamboyante, très belle, dans laquelle il avait imaginé qu'un homme icarien, pourvu des ailes, etc., et conçu sans le concours de la femme, donc un homme immortel, ce fantasme d'un homme futur, s'envolait vers le soleil pour détrôner le soleil du cosmos. Donc, cette utopie totalement prométhéenne, visionnaire. Quand il fait le tambour de feu, il fait le renversement exact, tête en bas, de cette même allégorie. Donc, le soleil est le tambour de feu, toutoum, toutoum, c'est-à-dire cette musique lancinante qui brise tous les espoirs de l'homme. Et alors, cette pièce est publiée en mai 1922 et pour moi, c'est mon analyse d'historien, pour moi, équivaut à la fin du futurisme comme mouvement global, comme mouvement politique global. Ensuite, il y a une sorte, non pas d'agonie, mais comment dirais-je, une sorte de post-futurisme qui va durer jusqu'à la mort de Magnetti en 1944, dans lequel Magnetti dit aux futuristes qu'il ne faut pas parler de politique, il ne faut pas menacer la dictature fasciste, mais qu'il faut quand même continuer à faire une modernité dans tous les domaines. Donc c'est un futurisme diminué, un futurisme uniquement artistique et culturel. Mais c'est, comment dirais-je, une idéalité futuriste qui perdure, même s'il ne s'agit plus d'un mouvement global. Le point capital qu'il faut comprendre, c'est que quand Magnetti fonde le futurisme, il fait une attaque au musée. Or, c'est quoi le musée? Le musée, c'est ce qui fonde l'art comme une valeur autonome par rapport à la société. L'art comme sphère séparée de la vie. Et Magnetti propose le futurisme comme mouvement global d'art-vie. Donc, c'est la destruction du musée, l'abolition du musée. C'est vraiment la métaphore de ce nouveau système.
Parce que cette fin du futurisme comme mouvement aussi politique, elle vient aussi quelque part de cette séparation avec le groupe des Arditi, puisque c'est ce que vous expliquez vraiment très très bien dans votre introduction, le groupe futuriste représente une révolution verbale, alors que l'Arditisme représente la vraie révolution, celle dont on peut payer le prix par la vie, c'est-à-dire en mourant, quoi. Et c'est là peut-être la séparation fondamentale entre le futuriste qui va pas pouvoir être une révolution politique parce qu'il y a ce refus de mourir pour cet idéal-là.
Non, c'est pas ça. C'est que les Arditi, effectivement, ils disent aux futuristes, nous avons payé le prix de la vie et nous avons fait une action réelle. Vous, les futuristes, vous restez toujours dans la métaphore, parce que c'est ça le problème. Et ça, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Mais quand Magnetti parle de la guerre du monde, etc., il est toujours dans le territoire, en quelque sorte, de la métaphore. Ce n'est pas comment dis-je, le monde réel. Le monde de la politique est un monde réel. Donc, il y a dans le futurisme des incursions dans la politique, il y a une mythologie politique, mais il n'y a pas une action réelle politique. Et c'est ça qui va être refusé par les Arditi. Mais encore une fois, entre la fin de la guerre et la marche sur Rome, cette période-là, il y a plusieurs options qui se font, et j'ai essayé de les documenter toutes, plusieurs options qui se font avec les anarchistes qui, à ce moment-là, ils parlent de passage à l'action directe, etc. Magnetti y croit, il entame un dialogue avec les anarchistes. Il y a Gramsci qui, lui, il voudrait en faire une sorte d'intellectuel de la révolution communiste. Et il y a les Arditi et il y a Mussolini et il y a D'Annunzio. Vous voyez, c'est très compliqué. Et c'est à un moment donné, quand on perçoit nettement que c'est Mussolini qui va gagner, on s'en aperçoit quand le roi met fin à l'entreprise de Fiume de D'Annunzio, on comprend qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. C'est Mussolini, l'homme fort, c'est lui qui va gagner. Et comment dirais-je, les futuristes trahissent Magnetti. Ils vont du côté de Mussolini. Ils se préparent à faire une carrière, etc. Et c'est là que Magnetti écrit le tambour de feu. C'est-à-dire, quelque sorte, il a compris qu'il a perdu, quoi. Qu'il a perdu, qu'il reste un artiste, quoi. Que les autres, ils sont beaucoup plus opportunistes que lui. Et donc, il met fin au futurisme. On essaie de le récupérer après. Les futuristes qui sont passés du côté de Mussolini essaient de le récupérer. Et il se laisse récupérer. Mais le futurisme des années du régime fasciste, c'est un futurisme dénaturé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un futurisme.
Est-ce que ça l'amoindrit? C'est-à-dire que cette séparation entre la partie artistique et la partie politique du futurisme, est-ce que ça amoindrit à ce moment-là la portée du futurisme?
Oui, parce qu'il accepte le musée. Il accepte le musée. Il revient à une idée institutionnelle de l'art, c'est-à-dire l'art sert à quoi? Ça sert à faire des tableaux et des sculptures qui vont finir au musée ou dans le salon bourgeois. Voilà. C'est ce qu'il avait nié et contesté au début. Donc, en quelque sorte, c'est un futuriste diminué, dénaturé. Mais c'est là la grandeur de Magnetti. Lui, il tient quand même à assurer une modernité italienne jusqu'au bout. Et alors, je ne sais pas si vous avez jamais vu une exposition des années 30 italiennes, mais c'est à vomir, l'art fasciste. Mais c'est vraiment à vomir. C'est là que vous voyez que la moindre chose futuriste, le moindre tableau, la moindre sculpture des futuristes, maintenait le dialogue avec l'Europe, maintenait le dialogue avec la culture internationale, maintenait le dialogue avec la modernité, avec le temps présent. Alors que les futuristes, parlaient de, les fascistes parlaient de retour à la Renaissance, retour à des, c'était des choses vraiment réactionnaires, profondément réactionnaires au niveau de la sensibilité.
Alors que le futurisme n'était pas dans cette optique-là, est-ce que vous pouvez nous parler de l'aéropeinture qui a joué un rôle moteur dans le futurisme des années 30
Alors,
et
l'aéropeinture...
qui peut enfin, vraiment surprendre à la fois comme terme, à la fois comme sensibilité.
La sensibilité aérienne, donc à partir du moment où ça se développe, l'aviation, Manetti avait toujours parlé de l'aviation, etc., les poupées électriques dédiées au premier vol des frères Wright, par exemple, c'est-à-dire qu'il a dès 1909, donc Manetti a toujours parlé de l'aviation. Mais ça devient important dans les années 30. Il estime que comment dirais-je, l'art italien a été fondé par l'invention de la perspective à l'époque, au début de la Renaissance, et il fallait, avec l'aéropeinture, il fallait vérifier la validité de la perspective. C'est-à-dire, que se passe-t-il lorsque l'œil qui observe n'est pas stable, d'une part, et d'autre part, se trouve d'en haut et pas sur la surface de la Terre. Donc, puisque c'est une chose qui concerne l'Italie et la culture italienne, la perspective, que Picasso avait déjà abolie de facto à Paris, hein, je veux dire, c'est sûr, mais qu'il fallait vérifier en quelque sorte avec cette nouvelle position du regard qui correspond à la vision aérienne. Alors, Manetti lance un manifeste en 1932 et le futuriste commence une série de recherches. Ces recherches vont apparaître, disons, vont se séparer en deux ou trois tendances. Il y a ceux qui peignent tout simplement l'avion, la puissance métallique de l'avion. Ils font la carlingue, la vision de l'hélice, etc. Disons, une sorte de célébration de nouvel objet qui est l'avion qui vole, plus lourd que l'air. Vous vous souvenez le slogan? C'est une tendance. Une autre tendance, c'est que se voit du haut du ciel. Alors, dans un premier temps, on pense à une sorte d'extase, comment dirais-je, d'une perspective magnifiée, célébrée, exaltée par la vision aérienne, et puis on s'aperçoit que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, en regardant d'en haut, quand la vision est une vision plongeante, zénitale sur la Terre, la vision est bouchée. La vision est bouchée. Or, la valeur de la perspective, c'était de mettre un point de fuite à l'horizon qui signifiait la progression de l'esprit humain, la progression de la civilisation. La perspective célébrait le fait que l'homme était en marche vers une histoire qu'il allait accomplir. Si vous abolissez le point de fuite, si vous abolissez l'horizon, le monde est bouché, et à ce moment, la vision est bouchée, et à ce moment-là, se crée quelque chose qui correspond à un espace aveugle de la toile. La toile ne vous reçoit rien, nous vous sourions. Et cette toile aveugle va être résolue, ce problème, par Fontana, qui va couper après la guerre, qui va couper. Alors Fontana a célébré Boccioni, il est parti de Boccioni, il le dit lui-même, hein, donc il a fait toute une série de manifestes dans le style futuriste, etc. Une troisième direction de l'aéropeinture est en revanche inventée par Prampolini, qui à ce moment-là vivait à Paris, il a vécu 12 années à Paris, et qu'il suivait un peu le surréalisme. Il invente ce qu'il appelle l'idéalisme cosmique, c'est-à-dire une exaltation de ce qui se passe dans le psychisme de l'aviateur lorsqu'il est dans les ciels. Donc, c'est l'insondable de l'univers, l'insondable du cosmos, le fait de percer le mystère du cosmos, et en même temps, ce qui affleure, c'est le psychisme profond de l'aviateur lui-même. Donc, c'est une sorte de surréalisme sans le rapport à Freud. À la psychanalyse, sans le rapport à la psychanalyse. Et c'est la partie la plus neuve, si j'ose dire, la plus moderne de l'aéropeinture, et surtout avec il peigne des énormes boules suspendues dans le ciel, ce qui fait penser un peu après à des choses de Magritte, à une iconographie qui réapparaîtra ensuite chez d'autres mouvements.
Et est-ce que c'est par l'aéropeinture, peut-être que le... C'est comme ça en tout cas que j'ai pris la chose, a permis de relancer le mouvement futurisme après cette cacophonie politique.
Ah, certainement, certainement. Il l'a structuré du moins, parce que si vous voulez, les années 20, c'est les années de l'art mécanique. Donc que se passe-t-il? Les années 20, c'est après la marche sur Rome, ça correspond à la reconstruction industrielle de l'après-guerre. Donc partout, il y a ce qu'on appelle l'art des machines, l'esthétique mécanique ou l'art mécanique. Et ça se vérifie partout, à Paris, avec le purisme, en Europe de l'Est, etc. Donc, les futuristes lancent l'art mécanique, mais il n'y a pas de manifeste unificateur. Il y a plusieurs tendances au sein de l'art mécanique et le fascisme n'en veut pas, parce que l'art mécanique signifie refléter la lutte des classes, c'est-à-dire la culture ouvrière, en quelque sorte, des usines industrielles. Donc, les années 20, le futurisme est vraiment très marginalisé. Il se présente d'une manière assez confuse, dispersée, si j'ose dire, et le fait qu'il est, comme disons, réuni par l'art mécanique ne permet pas de le voir structuré dans son ensemble. Tandis qu'au contraire, lorsque Magnetti lance le manifeste de la repeinture, tous les efforts convergent et il y a une véritable, à nouveau, une structuration unitaire du mouvement futuriste. Et ça, effectivement, alors, les années 30, c'est la repeinture. Malheureusement, en juin 40, l'Italie entre en guerre. Et la repeinture devient, chez les plus fanatiques, les 4 ou 5 qui suivaient encore Magnetti, devient la repeinture de guerre, c'est-à-dire la repeinture des bombardements, la repeinture de la mitrailleuse placée sur l'avion, et des choses comme ça. Et là, c'est l'aspect, comment dirais-je, le plus négatif du futurisme, mais qui mérite quand même d'être étudié. C'est une phase de l'histoire, on ne peut pas l'ignorer. Alors, Magnetti, à ce moment-là, il disait quelque chose de totalement absurde. Il disait que la galerie des batailles à Versailles, c'était de la peinture de guerre. Vous connaissez. Il disait que Léonard de Vinci dessinait des machines de guerre et que la guerre était toujours un sujet fréquenté par les artistes. Évidemment, en disant ça, on comprend qu'il lui échappait complètement la dimension technologique de la guerre moderne, qu'une chose était l'héroïsme individuel, lorsqu'on y allait à la baïonnette. Et une autre chose, c'est la puissance de mort des engins mécaniques.
Parce que, en lisant tel que je l'ai fait les textes et les manifestes de manière chronologique, la séparation du futurisme en deux entités, en entité politique et artistique, m'a énormément surprise. Et quand j'en suis arrivé après à lire les textes sur l'aéropeinture, je me suis dit, ah, là, en tant que lecteur, j'ai senti
Nouvel élan.
un nouvel élan, alors que cette entité politique du futurisme, trouve là dans les textes, dans les manifestes que vous avez regroupés, Giovanni Lista, m'a fait comme une pesanteur, comme un poids, et je ne voyais pas sur quoi ça pouvait déboucher après
Alors,
artistiquement. Et quand arrive l'aéropeinture, j'ai senti
je
une
vous dis,
nouveauté, je me suis dit, là
là,
il
je
se
vous dis
relance.
ce qui est derrière la repeinture. Il y a un personnage extraordinaire, aussi extraordinaire que Magnetti, qui s'appelle Mino Somenzi, juif, convaincu que le fascisme allait donner la grandeur à l'Italie. Et dans le futurisme, il y a eu pas mal de juifs. Et ce Mino Somenzi, assez riche, finance un journal qui s'appelle Futurismo, à ce moment-là, parce que Magnetti, il faut dire qu'arrivé à ce stade-là de sa vie, début des années 30, n'avait plus d'argent. Il avait claqué sa fortune. Donc, il commence à écrire des articles dans les journaux pour être pigiste, pour se faire payer quelque chose. Et entre autres, c'est l'une des raisons pour laquelle il acceptera d'être académicien de l'Italie pour toucher le salaire
Ça,
d'académicien.
c'est en 1929.
Oui, 29, 30. À ce moment-là, il n'a plus d'argent. Il a vraiment claqué toute sa fortune. Je veux dire, quand il y a eu l'exposition à Paris en 1912, il a loué la galerie. Il a payé royalement, etc. Quand des futuristes venaient à Paris, c'est lui qui payait le train. Donc, bon. Il a claqué sa fortune. Et là, il arrive. Donc, si vous voyez les revues futuristes de 1924-25, c'est tout petit, c'est des bulletins, c'est 4 pages. Donc, on voit bien qu'on est à la fin, quoi, de quelque chose. Là arrive Somenzi. Somenzi, juif, il y croit et il pense que le futurisme peut jouer un grand rôle en étant pour le fascisme ce que l'avant-garde constructivisme est pour le communisme. Donc il voit ce parallèle comme ça. Bon, alors il finance Futurismo, qui est un journal très luxueux, grand format, avec plusieurs pages, une feuille à l'intérieur. Un papier couché avec des photos, etc. Donc, c'est vraiment, on voit bien qu'il y a les moyens. Il lance ce journal et il organise des expositions à Rome. Une de ces expositions, il a plus de 340 exposants. C'est-à-dire qu'avec ce journal, il relance l'idée des clubs futuristes dans les villes d'Italie et il recrée l'unité. Donc, il fait une sorte de. Avec ce journal, il fait une sorte de relais, de convergence au niveau national. Et l'opération réussit. À ce moment-là, Mainetti est presque, je ne dis pas embaumé, mais il est presque célébré comme une statue. Donc, il a le prestige intouchable du fondateur. Somenzi le vénère, mais il n'agit pas tellement. Mainetti a perdu un peu la main. Et donc, Somenzi avance avec ce journal. Il théorise une fonction politique de l'art qui soit semblable à celle du constructivisme russe. Et il avance jusqu'en 1932-1933, et là, il commence à gêner le fascisme. Alors, les grands fonctionnaires du fascisme l'attaquent, il réagit, à la différence de Mainetti qui essaie d'être diplomate, lui réagit durement, on censure le journal et on interdit le journal. Donc, la phase qu'on étudie, comme vous dites, il y a une nouvelle unité, une nouvelle relance du fascisme avec la repeinture, correspond aussi à l'animation activiste de ce Somenzi, qui entre autres connaissait un autre juif qui était au Caire, et donc quand il a décidé d'attaquer sur l'art dégénéré, etc., il signait dans ses journaux, dans le journal La Rédaction, et puis le même article sortait au Caire avec son ami juif, il sortait au Caire avec signé Somenzi et Mainetti, les véritables auteurs du texte, vous voyez. Donc ça pour vous dire comment, mais ça c'est de la micro-histoire du futurisme, ça c'est un autre livre, il faudrait détailler tout ça.
Et alors après, on va arriver jusqu'à la mort de Marinetti. Il meurt dans quelles conditions en 1944, Marinetti ?
Alors, donc, il faut dire ce qu'il a été à l'histoire. Donc, les Américains remontent la péninsule, avec le débarquement en Sicile, et puis remontent la péninsule. Et Marinetti comprend qu'étant très compromis avec le fascisme, il peut finir comme Zrapante. Vous connaissez la fin de Zrapante. Donc, il remonte vers le nord, parce qu'à ce moment-là, il habitait Rome. Il remonte vers le nord, il est à Milan, et puis il va à Venise. Et à Venise, il reste plusieurs mois, et là, les futuristes veulent le voir. Il fait encore un dernier congrès futuriste, il y a les photos, mais c'est vraiment un petit groupe de gens maintenant. Et alors, ce qui est extraordinaire, à ce moment-là, il ne parle plus de politique. Il ne parle plus de fascisme. Il parle toujours de projets, on va faire ceci, on va faire la musique des mots liberté, on va faire, je dis non, il y a toujours cette frénésie du futur, quoi. Et puis, à partir de là, il se déplace vers le lac à Bellagio, où il est mort, et un matin, il était au bord du lac et dit sa veuve qu'il a eu une attaque au cœur. Il avait le cœur faible parce qu'il avait été volontaire en Russie avec la guerre de Mussolini, donc il avait voulu partir. Là aussi, c'est un autre épisode qu'il faudrait raconter. C'est-à-dire qu'il allait dans les théâtres italiens et il disait « il faut partir volontaire pour la guerre, cette guerre-là, ça va être décisive, l'Italie va être grande, etc. » Et un jour, quelqu'un du public lui a dit « mais pourquoi tu ne pars pas ?» Alors, pour un homme de nerfs comme lui, vieillard, bon, alors il a décidé de partir, on lui a dit qu'il ne pouvait pas partir, il était trop âgé. Et en plus, il avait une hernie inguinale. Il s'est fait opérer de l'hernie inguinale et il a voulu partir. Il est allé au front russe et on lui a chargé de gérer le courrier. Parce que, évidemment, il a géré le courrier du régiment, là. Et puis, dès que l'hiver est arrivé, on lui a dit, tu rentres. Et on l'a fait revenir de force parce qu'il risquait de mourir congelé là-bas. Et donc, le Caire avait été très affaibli par cette histoire de la guerre en Russie. Donc, il s'est déplacé vers Bellagio. On suppose qu'il voulait fuir en Suisse, qu'il se préparait au pire, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui sont allés là au bord. Vous connaissez les lacs de la Lombardie, c'est-à-dire que le bord du lac extrême au nord, c'est le territoire suisse, le lac en bas, c'est le territoire italien. Donc, il suffit de prendre un bateau et de traverser le lac, vous êtes en territoire suisse. Donc, moi, je pense qu'il avait peur aussi parce qu'il avait une femme et trois filles. Donc, il a passé aussi à la famille, quoi. C'est-à-dire, mais il est mort juste à temps, en quelque sorte. Il est mort un peu avant Mussolini, juste à temps avant de voir. Il était déjà conscient du fait que l'Italie avait perdu la guerre, que la catastrophe est arrivée, qu'on avait bombardé les joyaux artistiques italiens. À Parme, on avait bombardé le théâtre Farnèse de la Renaissance. À Cassino, à Monte Cassino, on avait bombardé le monastère, à Ferrara, on avait bombardé, à Padoue, on avait bombardé la chapelle des Ermitanes avec les œuvres du Mantegna, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, ça, c'est M. Churchill qui a décidé ça. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à l'armée américaine, malgré tout, il résistait encore beaucoup, les Allemands et tout. Donc, on a décidé de frapper le fameux bombardement de Dresde, vous connaissez. On a décidé de frapper des endroits pas du tout militaires, pas du tout stratégiques, juste pour détruire le moral des populations. Et donc l'Italie a été victime aussi de cette politique. Alors, Magnetti n'a pas laissé de texte, mais si, il a laissé des textes, mais c'est toujours nous vaincrons, l'Italie est grande, vive la patrie, etc. Il ne bouge pas, il est figé dans sa personnalité. Mais quand même, il devait être conscient de la catastrophe quoi, qui était arrivée. Voilà, donc, mais il n'a pas, comment dire, il n'a pas trahi son engagement d'honneur en quelque sorte, hein, donc n'a pas trahi. Il n'a pas changé d'attitude et heureusement, il est mort à temps. Mussolini, qui est mort après, vous savez ce qu'on a fait à son cadavre, ce qu'il est devenu.
Et puis, Ezra Pound a été
pendu dans une cage et exposé à... Non, ça a été...
Il est tenu en asile de nombreuses années.
Oui, après, mais il a été d'abord, comment dirais-je, exposé à la foule dans une cage à pendu, c'est-à-dire que vraiment le maximum d'humiliation, si vous voulez. Alors, ça entre dans un autre raisonnement. Qu'a-t-on fait ? Pourquoi Brasillac a été fusillé en France ? Moi, je me suis posé la question. Parce que chez Magnetti, si vous voulez, quand on examine attentivement tous les textes de soutien à Mussolini, il n'y a pas d'argumentation philosophique, il n'y a pas d'argumentation intellectuelle. C'est quelque chose qui relève de l'incantatoire. Mussolini a raison, Mussolini, la Paris est grande, l'Italie est grande, nous allons gagner, mais il n'y a pas de compromission intellectuelle profonde. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que Brasillac, lui, il a élaboré une pensée de justification des idéologies de la droite. Magnetti, c'était un patriote qui s'est fourvoyé et qui reste figé dans ce patriotisme du petit mec né à Alexandrie qu'on humiliait au collège, parce qu'il raconte lui-même dans ses mémoires qu'au collège, les Français, les Anglais et les Grecs l'humiliaient en disant « tu es un Italien », etc. Donc il a été façonné, formé par cette réaction, quoi. Non, l'Italie est grande, non, l'Italie... Mais il n'y a pas... c'est compromis. Hein, on ne peut pas justifier, on ne peut pas légitimer ce qu'il a fait. La compromission au fascisme y est. Mais il n'est pas d'ordre intellectuel, il n'est pas d'ordre... Mon impression, hein, mais je peux me tromper. C'est pour ça que j'ai publié les textes. J'aimerais que quelqu'un en décide.
Est-ce qu'elle entache à ce point-là le futurisme ? Ou pas ? Se pose cette question, c'est forcément une tâche dans le mouvement futuriste.
Alors, tout d'abord, quand on regarde Boccioni, il était marxiste au début. Il a été convaincu par Magnetti à signer un ou deux manifestes sur la guerre. Mais là aussi, il faut comprendre ce qui s'est passé. Vous imaginez que Boccioni, lui, il dessinait des affiches pour le Touring Club italien pour vivre, parce qu'il n'avait pas le sou. Carra, lui, faisait le peintre en bâtiment pour vivre, parce qu'il n'avait pas le sou. Et Carra était anarchiste de gauche, donc ça c'est documenté. Russolo, il était démocrate, il faisait le restaurateur de fresques pour vivre lui aussi. Bon, il arrive, un jour ils font une petite exposition, il arrive avec une voiture avec chauffeur, un monsieur ultra élégant, qui dit « Suivez-moi, je vais vous faire exposer à Paris, etc. » Bon, vous êtes un jeune artiste, que vous désirez la gloire, etc. Et ils ont été pris dans le mouvement, si vous voulez. Et à ce moment-là, on trouve leur signature sous un manifeste soudé qui concerne la guerre. Je vous parle de 14-15, hein, je ne vous parle pas de la guerre à Mussolini. Ensuite, Santelia, qui était élu dans le conseil communal de Como comme socialiste, donc c'est prouvé qu'il était socialiste, il meurt à la guerre. Boccioni meurt à la guerre. Russolo subit la trépanation crânienne, blessé grave, etc. Soffici, blessé grave, il abandonne le futurisme, etc. Severini, qui est à Paris, ne s'est jamais mêlé de politique. Donc, il reste le cas de Magnetti. Alors, effectivement, comment dirais-je, Magnetti s'est compromis avec le fascisme. S'est compromis, à mon avis, non pas de manière intellectuelle profonde, parce qu'il a refusé le fascisme en tant que pensée. Il s'est compromis avec le régime fasciste, pas avec le fascisme, ce qui n'est pas la même chose. Et est-ce que cela, c'est une tâche pour le futurisme ? Oui, parce que tout le monde répète ça, tout le monde y vient, je ne sais pas pourquoi, comme si Picabia n'avait pas été péténiste, et c'est documenté, comme si Salvador Dali n'a pas été franquiste, et c'est documenté, comme si les autres, etc., etc., les autres ont été staliniens, etc., Breton et les autres, quoi. C'est-à-dire que le siècle a été ce qu'il a été le siècle à la fois de l'avant-garde et des totalitarismes. Et donc, voilà. Un jour, quand tout sera dans la sérénité, d'ici 2 ou 3 siècles, on analysera les choses sans cette passionnalité qu'on y met encore, quoi.
Oui, parce que pour moi qui ne connaissais que cela de loin, qui réfléchis un peu à ces questions-là, le futurisme paraît encore complètement d'actualité un siècle après. C'était en
Oui.
1909, et puis après toute cette masse de manifestes avant 1914, tout cela peut paraître encore complètement
Contemporain, c'est-à-dire.
d'actualité et être considéré encore par des jeunes créateurs actuels comme pouvant être une ligne de conduite.
Une ligne de conduite, un réservoir d'idées, parce qu'ils ont des idées quand même formidables. Et alors, quand ils lancent, par exemple, la cuisine artistique, l'art de manger, etc., vous voyez bien que l'Itard, Café Spoerry, ça correspond à ça. C'est quand il y a pas mal de propositions de l'art contemporain qui retrouvent les idées futuristes. Alors, pourquoi? Parce que justement, le cubisme a révolutionné juste la peinture. C'est un problème de libérer la peinture. Le futurisme a dit que l'art doit être mêlé à la vie et que tous les phénomènes de la vie peuvent concerner l'art, que l'art peut servir à tout. Or, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, cette sorte de dilatation totale du discours artistique. Alors, il y a pas mal d'idées du futurisme qui retournent d'actualité.
Et cette vision d'aller vers le futur.
Vers le futur. Alors.
C'est quelque chose qui est maintenant aussi ancré dans notre époque.
Alors, quelles sont les différences? Les différences, c'est qu'à l'époque futuriste, il avait la technologie. Aujourd'hui, nous avons l'écologie qui nous a appris à nous méfier des machines et du monde et de la consommation à outrance. Donc, mais, comment dirais-je, aujourd'hui aussi, le monde est plus léger. C'est-à-dire que nous avons basculé vers l'immatériel des écrans des ordinateurs, de la télévision, les écrans technologiques, etc. Mais l'attitude de futur, l'attitude d'intégrer l'art à la vie, c'est la même. C'est la même. Et comme je vous disais, même sur le plan ponctuel, comme la cuisine ou des choses comme ça, on retrouve les mêmes idées. Alors, je pense que le futurisme a élaboré tout simplement la culture d'avant-garde dans toute son extension, dans toute son originalité, dans toutes ses moindres expressions. Et que donc, d'une manière ou d'une autre, il a fondé, il a créé, comment dirais-je, ce qu'est la culture du XXe siècle. Alors évidemment, cette grande erreur du fascisme fait en sorte que des fois on évite le mot futurisme, mais on parle bien de la même chose, quoi. C'est-à-dire on préfère parler de néo-dada, on préfère parler, alors que c'est des choses futuristes, clairement futuristes, on préfère parler disons, changer de formule, mais c'est bien la culture futuriste qui est d'actualité aujourd'hui.
Merci beaucoup, Giovanni Lista.